Petites histoires des sciences. 1927, Le Maître, à Bruxelles. Nous sommes en Belgique, année où va se tenir une conférence réunissant les plus grands physiciens de la planète. On va principalement y discuter de l'infiniment petit, mais une autre histoire qui concerne l'infiniment grand est en train de s'écrire. Une histoire qu'un jeune étudiant a écrite 2 ans plus tôt, Georges Lemaître. Ce jeune physicien vient rencontrer Einstein à la conférence Solvay pour lui présenter son travail, et ce dernier lui répond « Vos calculs sont corrects, mais du point de vue physique, ils me paraissent tout à fait abominables ». Retour en 2 temps sur cette abomination qui va redessiner notre univers. Premier volet, l'univers en expansion. Pour bien comprendre notre histoire, il faut remonter un tout petit peu dans le temps. En 1915, Einstein termine d'établir la relativité générale. Selon lui, la gravité n'est pas une force, mais une manifestation de la courbure de l'espace-temps engendrée par la distribution de la masse et de l'énergie. En 1922, le physicien russe Alexandre Friedman fait l'hypothèse que la masse est distribuée de façon homogène dans l'univers, ce qui évidemment n'est pas le cas puisque la masse est plus concentrée au niveau des galaxies et des étoiles par exemple que dans certaines régions de l'univers. Cependant, à partir de cette hypothèse, il résout l'équation posée par la relativité générale et arrive à la conclusion que l'univers change de taille. L'univers n'est donc pas statique, comme le pense Einstein, mais dynamique, puisque l'espace varie au cours du temps. Cependant, Friedman est assez honnête pour reconnaître que les observations astronomiques pour étayer son modèle ne sont pas suffisantes. À la fin de son article, qui s'intitule « Sur la courbure de l'espace », il dit « Si nous supposons la constante cosmologique nulle, et la masse de l'univers égale à 5 x 10 puissance 21 masse solaire », la période d'univers devient de l'ordre de 10 milliards d'années. Il fait donc remonter l'origine de notre univers à environ 10 milliards d'années, ce qui n'est pas loin de ce qui est communément admis aujourd'hui, 13,7 milliards d'années. En 1912, l'astronome américain Vesto Slipher est le premier à observer que les raies spectrales de certaines nébuleuses spirales sont pour certaines décalées vers le rouge, ce qui, interprété comme un effet Doppler, suggère qu'elles s'éloignent de nous. Les nébuleuses spirales n'étaient pas encore considérées comme des galaxies à part entière. On imaginait à l'époque que la Voie lactée était une île dans l'univers. Il faudra attendre les travaux d'Henrietta Leavitt complétés par le Danois Ejnar Hertzsprung en 1919 pour pouvoir mesurer avec fiabilité les distances dans l'univers. Le théoricien britannique Arthur Eddington remarque que sur les 41 décalages spectraux de nébuleuses spirales mesurés par Vesto Slipher, 36 sont vers le rouge. Dès 1925, son étudiant en thèse Georges Lemaître démontre une relation linéaire entre la distance et le décalage vers le rouge. En 1925, Edwin Hubble prouve que les nébuleuses spirales sont extragalactiques. Il existe donc des galaxies semblables à la nôtre, ce qui clôt un débat de près de 150 ans. Les observations qui s'accumulent montrent que la lumière des galaxies lointaines est systématiquement décalée vers le rouge, ce qui signifie qu'elles s'éloignent toutes de nous à grande vitesse, quelle que soit la direction vers laquelle on regarde, Comment cela est-il possible? En 1927, dans un article fondateur, Georges Lemaître indique que deux solutions ont été proposées par la relativité générale. Il écrit, en introduction, « Celle de De Sitter ignore la présence de la matière et suppose la densité de l'univers nulle. Elle conduit à certaines difficultés d'interprétation sur lesquelles nous aurons l'occasion de revenir, mais son grand intérêt est d'expliquer le fait que les nébuleuses extragalactiques semblent nous fuir avec une énorme vitesse, comme une simple conséquence des propriétés du champ de gravitation, sans supposer que nous nous trouvions en un point de l'univers doué de propriétés spéciales. L'autre solution est celle d'Einstein. Elle tient compte du fait évident que la densité de la matière n'est pas nulle, et elle conduit à une relation entre cette densité et le rayon de l'univers. Cette relation fait prévoir l'existence de masses énormément supérieure à tout ce qui était connu lorsque la théorie a été pour la première fois comparée avec les faits. Ces masses ont depuis été découvertes lorsque les distances et les dimensions des nébuleuses extragalactiques ont pu être établies. Les deux solutions ont leurs avantages. L'une s'accorde avec l'observation des vitesses radiales des nébuleuses, l'autre tient compte de la présence de la matière et donne une relation satisfaisante entre le rayon de l'univers et la masse qu'il contient. Il semble désirable d'obtenir une solution intermédiaire qui pourrait combiner les avantages de chacune d'elles. Très vite, Georges Lemaître se rend compte qu'un tel intermédiaire n'existe pas dans un champ de gravitation statique et de symétrie sphérique. En reprenant les observations de Hubble et tenant compte de la vitesse propre du Soleil, il détermine la distance et la vitesse d'éloignement des nébuleuses, proposant au passage une équation qui n'est autre que la première formulation de ce qui sera plus tard appelé loi de Hubble. Il démontre dans son article une relation linéaire entre la distance et la vitesse de récession des galaxies. Il obtient un modèle en expansion perpétuellement accéléré. Il ajuste la valeur de la constante cosmologique de façon à rendre compte d'un univers qui croisse depuis un temps infini, évitant ainsi toute singularité dans le passé et ne posant pas d'âge pour l'univers. My baby don't care for my own places. My baby don't care for rings and other expensive things. She sensible as can be. My baby don't care who knows. My baby just cares for me. En conclusion, Lemaître écrit « Il resterait à rendre compte de la cause de l'expansion de l'univers. Nous avons vu que la pression de radiation travaille lors de l'expansion. Ceci semble suggérer que cette expansion a été produite par la radiation elle-même. Dans un univers statique, la lumière émise par la matière parcourt l'espace fermé, revient à son point de départ et s'accumule sans cesse. Il semble que là doit être cherchée l'origine de la vitesse d'expansion qu'Einstein supposait nulle et qui, dans notre interprétation, est observée comme vitesse radiale des nébuleuses extragalactiques. Ce qui est à retenir, c'est que l'effet Doppler observé n'est pas dû à un mouvement réel des galaxies, mais à l'espace qui se dilate continuellement. La signification fondamentale du travail de Lemaître passe inaperçue et Einstein trouve les calculs abominables. Voyons comment évoluent les idées dans le monde anglo-saxon, monde qui ne prend pas connaissance du travail de Lemaître qui avait publié en français. Les choses s'accélèrent véritablement en 1929 de l'autre côté de l'Atlantique, année où la crise éclate. En 1929, un jeune américain professeur assistant en physique théorique à Princeton, Howard Percy Robertson, il a 26 ans, développe de façon indépendante l'expression mathématique dans un univers de De Sitter. Travail que Lemaître avait déjà accompli, mais il ne comprend pas le sens physique de son travail. Et Hubble dans tout ça? En 1929, Edwin Hubble publie les données expérimentales montrant la relation linéaire vitesse-distance, avec comme valeur pour sa constante de proportionnalité 600 km par seconde par mégaparsec. Le mégaparsec est une unité de distance qui vaut environ 3,26 millions d'années-lumière. Très proche de ce que Lemaître avait calculé, 625 km par seconde par mégaparsec. mais Hubble ne fait pas le lien avec les modèles d'univers en expansion. Hubble n'est pas un physicien théoricien, mais un observateur du ciel. Il ne lira jamais les travaux de Lemaître. Pour lui, les décalages vers le rouge des galaxies résultent d'un pur effet Doppler et non d'une expansion de l'espace. En 1930, Arthur Eddington réexamine le modèle de l'hypersphère statique d'Einstein et découvre qu'il est instable. À la moindre perturbation, l'espace entre soit en expansion, soit en contraction. Il appelle alors à de nouvelles recherches pour expliquer les vitesses de récession en termes de modèle dynamique. Le maître lui rappelle par lettre qu'il a déjà résolu le problème dans son article de 1927. Eddington, qui n'a pas lu l'article de son ancien étudiant lors de sa parution, fait amende honorable et va désormais promouvoir le modèle d'univers en expansion. D'après Jean-Pierre Luminet, il traduit en anglais l'article de Lemaître pour le publier en 1931. C'est alors que, de façon inexpliquée, Eddington omet le passage où Lemaître donne la relation de proportionnalité entre la vitesse de récession et la distance des galaxies. Lemaître ne sera jamais reconnu comme le premier découvreur de l'expansion de l'univers et tous les lauriers iront à Hubble. En 1931, Hubble écrit à De Sitter son incapacité à trouver une explication théorique, laissant cette tâche à, je cite, « de rares théoriciens compétents ». C'est un autre physicien théoricien anglais, Arthur Geoffrey Walker, qui, en 1936, développera à partir des travaux de Robertson le concept d'expansion de l'univers en prédisant le phénomène astronomique de décalage vers le rouge. Dans le monde anglo-saxon, les solutions obtenues sont connues sous le nom du modèle de Robertson-Walker, alors qu'elles sont historiquement les solutions de Friedmann-Lemaître. Nous écoutons actuellement Black and Blue de Duke Ellington, composé en 1929, et vous retrouverez toutes les références ainsi que la bibliographie sur le site Petites Histoires des Sciences.